Chapitre 31. En territoire ennemi. Dans les ténèbres, à chacun son destin. Gao Xingjiang. Café Pils, Lower East Side, 10h du matin. Abasourdie, Madeline se rejeta en arrière sur sa banquette, prise d'une soudaine nausée. Sa tête se mit à tourner. Ni Alice, ni Danny n'étaient morts. Plus surprenant encore, l'adolescente était la fille du parrain de la pègre. Mais Jim était bien mort, lui. Elle-même avait failli se suicider. Des dizaines de personnes avaient travaillé nuit et jour sur cette enquête. Pourquoi ? Pour qui ? Soudain, elle douta de tout. Dans cette histoire, qui étaient les victimes ? Qui étaient les coupables ? Depuis le début de l'affaire, dès qu'elle parvenait à éclaircir une zone d'ombre, un autre mystère se faisait jour dans la foulée, l'entraînant sur un territoire chaque fois plus dangereux. Elle leva les yeux et chercha du soutien auprès de Jonathan. Mais celui-ci, le front collé à la vitre, s'inquiétait de ce qu'il voyait dehors. « Je crois que nous sommes filés. »« Tu plaisantes ? » fit-elle en s'approchant de la fenêtre. « Tu vois la Ferrari noire, garée un peu plus bas ? Devant la galerie du Morrison Hotel ? » ?»« Oui, je l'ai croisée deux fois ce matin. D'abord à Tribeca, puis à Little Italy. Elle n'a pas de plaque et je ne parviens pas à identifier son conducteur. » Madeline plissa les yeux. À cette distance, impossible de distinguer la moindre silhouette à l'intérieur. « Suis-moi » lança-t-elle d'un ton décidé. Il y a encore une heure, elle n'aurait pas imaginé une seule seconde qu'on puisse les espionner. Mais, après la mort de Jim et ce qu'il venait de découvrir, elle se méfiait de tout. Ils payèrent leur petit déjeuner, descendirent à l'étage et quittèrent le café pour rejoindre leur voiture. « Laisse-moi le volant !» demanda Madeline. Elle s'installa aux commandes de la Smart et démarra. « Tu crois qu'elle va nous suivre ?» C'est peut-être cette enquête qui nous rend parano. Juge par toi-même, je te parie qu'elle va déboîter. Effectivement, la Ferrari sortit de son emplacement et les prit discrètement en filature, 20 mètres derrière eux. Ne te retourne pas, ordonna-t-elle, et boucle ta ceinture. La petite citadine prit de la vitesse en remontant la Bowery vers Cooper Square. Soudain, Madeline freina et braqua le volant à fond vers la gauche, faisant décoller la voiture sur le terre-plein central. « T'es givré !» râla Jonathan en se cramponnant à la poignée. Leur véhicule atterrit de l'autre côté de la route, prenant la Ferrari à revers. « Ferme-la et ouvre les yeux !» Désormais, les deux voitures roulaient en sens inverse. Lorsqu'elles se croisèrent, Jonathan eut une demi-seconde pour voir qui était au volant. C'était une femme blonde. Très belle, avec une cicatrice en forme d'étoile qui partait de son arcade sourcilière pour lui déchirer le haut de la joue jusqu'à la commissure des lèvres. « Alors ? Je la connais !» s'exclama-t-il. « Je suis sûr que c'est la femme chez qui j'ai reconduit Alice il y a 2 ans, au Cap d'Antibes. Celle qui se faisait passer pour sa mère ? Oui !» Madeline regarda dans le rétroviseur. La Ferrari coupait vers l'ouest, vers Astor Place. Intuitivement, la Smart tourna sur Houston Street. Si elle repasse par Broadway, on peut la prendre en chasse, n'est-ce pas ?
C'est jouable.
Ils croisèrent les doigts, guettant avidement les voitures. Quelques secondes plus tard, la calandre agressive de la GTO apparut dans l'axe routier qui traversait la ville en diagonale. Le cabriolet tourna sur Spring Street. Dans son sillage, Madeline déboîta et se fondit dans la circulation. La conductrice avait dû les repérer, car la Ferrari plaça une accélération qui laissa la voiture être sur place. « Merde, on la perd !»
Ça paraissait inévitable. Que pouvait une Smart contre un moteur V12 de 280 chevaux ?
Mais il en fallait plus pour décourager Madeline. Refusant d'être semée, elle grilla un feu au croisement de Lafayette. « Attention !» cria Jonathan. Un vendeur de hot-dog ambulant avait engagé son chariot pour traverser. Madeline actionna le klaxon tout en braquant à gauche. Le marchand sursauta et fit un bond en arrière, tandis que la Smart percutait le bord de la charrette en métal qui se retourna sur le sol, déversant sur la chaussée saucisses, ketchup, moutarde, oignons frits et choucroute. La voiture fut déportée et mordit le trottoir, mais Madeline parvint à la maîtriser et écrasa l'accélérateur pour repartir à plein régime sur Delancey Street.
Pendant ce temps, à Coney Island, avachi au sol comme un animal apeuré, Alice tourna la tête à la recherche du rat. Mais le rongeur s'était fait la malle avec Yuri. La fièvre brûlait dans son sang. La transpiration inondait son corps, collant ses cheveux à son visage et faisant courir des frissons le long de ses articulations. Des contractions douloureuses se propageaient dans son ventre. Il lui sembla aussi que ses pieds et ses chevilles avaient enflé. Après le film, le russe était reparti, la laissant enchaîner à ce maudit tuyau. Malgré ses supplications, il ne lui avait pas donné suffisamment d'eau, se contentant de lui asperger le visage avec une bouteille. Écrasée de fatigue, Alice fit un effort pour se contorsionner et remonta la fermeture éclair de son sweatshirt avec ses dents. Au moindre mouvement, elle était prise de nausées et de vertiges. Cette fois, le haut-le-cœur la saisit à la gorge et elle vomit une bile jaunâtre. Elle se redressa contre le mur, incapable de reprendre son souffle. Des palpitations agitaient sa poitrine. Les battements de son cœur gardaient un rythme inquiétant. Combien de temps allait-elle tenir? À présent, elle ne pouvait plus se le cacher. Les maux de tête qui vrillaient sa nuque et la barre de fer qui compressait son abdomen étaient le signe que son hypertension avait déclenché une insuffisance rénale. Elle regarda la cuvette des WC à 2 mètres d'elle. Depuis des heures, elle avait envie d'aller aux toilettes, mais elle n'arrivait pas à s'y hisser. Abandonnant toute dignité, elle se soulagea dans son survêtement. Elle n'était plus à une humiliation près. Elle baignait certes dans le vomi et dans l'urine, mais s'était au moins délestée d'un poids. Ce répit dura quelque temps, puis un sifflement sourd bourdonna à ses oreilles. Sa vision se brouilla, et elle eut l'impression que des points lumineux clignotaient dans toute la pièce. Elle suffoquait, elle dérivait, elle délirait. Elle lutta pour ne pas s'évanouir, mais sombra bientôt dans un semi-coma plein de confusion. Lower East Side.
Elle est là! S'écria Jonathan en pointant du doigt la Ferrari qui s'engageait sur le Williamsburg Bridge.
Le pont suspendu enjambait l'East River pour relier Lower East Side à Brooklyn. Encerclé de grillages et de câbles d'acier, il s'étendait sur 2 kilomètres et drainait des centaines de voitures sur 4 voies.
« La circulation est dense. Elle va être obligée de ralentir !»
devina Madeleine. Effectivement, la GTO marquait le pas, engluée dans le trafic. Madeleine avait retrouvé de sa confiance. Jouant avec le feu, elle prit le risque de slalomer à vive allure entre les voitures, passant d'une file à l'autre pour combler la distance qui la séparait du Spider.
« Ralentis, on va se planter !»
Dès la sortie du pont, le cabriolet italien vira sur les chapeaux de roue pour attraper la première sortie.
« On se dirige vers où ? » demanda-t-elle, peu familière de la géographie new-yorkaise. « Williamsburg !»
Ils arrivèrent sur Bedford Avenue, le point névralgique du quartier. De vieux immeubles en briques alternaient avec des constructions flambant neuves. En pleine construction, l'endroit contrastait avec le côté aseptisé de Manhattan. Les friperies, les petits cafés, les magasins de vinyle, les épiceries bio et les librairies d'occasion, tout se voulait à la fois authentique et avant-gardiste. La progression de la Ferrari fut freinée par l'ambiance de village qui régnait dans la rue. Les commerçants avaient dressé des étalages sur le trottoir. Des chanteurs amateurs animaient l'artère et un cracheur de feu faisait son numéro. À présent, Madeleine et Jonathan étaient à moins de 10 mètres du Spider. Pressé par la Smart, le bolide tourna à gauche avant d'arriver à McCarran Park. En s'approchant de la rive, ils traversèrent une zone d'entrepôts, de hangars et de terrains en friche. Couverts de graffitis, les murs rappelaient le New York des années Basquiat.
« Elle est coincée !» s'écria Jonathan alors qu'il s'enfonçait dans une ruelle. « C'est une impasse! Il n'y a rien par la rivière !»
La Ferrari arriva en effet devant une concession de voitures d'occasion. Le bâtiment donnait sur les quais, offrant une vue inattendue sur les gratte-ciels de Manhattan. La GTO roula au ralenti sur le débarcadère, puis, d'un brusque coup de volant, s'engouffra dans le hangar par une grande porte d'acier. Madeleine pila pour immobiliser sa voiture à 20 mètres de l'entrée du garage qui portait le nom de Macondo Motor Club.
« Et maintenant ?»«
On s'est fait avoir, » jugea Jonathan. « Ce n'est pas nous qui la chassions, c'était elle. Tu crois qu'on devrait ?»
Il n'eut pas l'occasion de terminer sa phrase. Un crissement de pneus les fit se retourner.
La calandre démesurée d'une dépanneuse les percuta, harponnant la Smart et la poussant dans la gueule béante du garage. Le choc les projeta vers l'avant. Madeline n'avait pas bouclé sa ceinture, mais le bras de Jonathan jaillit juste à temps pour éviter que sa tête ne heurte le volant. La remorqueuse traîna la petite voiture sur plusieurs dizaines de mètres jusqu'à la faire pénétrer complètement dans le hangar dont les portes se refermèrent sur eux. L'entrepôt s'étendait sur plus de 200 mètres carrés. Une cinquantaine de voitures s'y trouvaient, rangées les unes contre les autres. Jonathan reconnut une Peugeot 403, mais apparemment la concession était spécialisée dans les muscle cars. Ford Gran Torino, Chevrolet Camaro, Plymouth Barracuda. Pas de casse ? Demanda-t-il en regardant Madeline. Ils cédèrent mutuellement pour s'extraire de la Smart, qui à présent ressemblait davantage à une compression du sculpteur César qu'à une voiture en état de marche. Devant eux, la femme à la cicatrice, postée près de sa Ferrari, pointait une arme dans leur direction.
« Agent Blythe Blake de l'US Marshal Service » cria-t-elle tandis qu'il se redressait. « Levez les mains au-dessus de votre tête !»«
L'US Marshal Service ? La police fédérale du département de la justice ?» Jonathan et Madeline se regardèrent avec étonnement. Cette femme était flic ? Puis, ils se retournèrent vers la dépanneuse d'où un homme sauta au sol. En pantalon de treillis et veste militaire, Danny Doyle s'avança vers eux.
« Salut, Maddy ! Tu sais que tu as toujours le plus beau petit cul de toutes les fleuristes parisiennes ?